Nous allons commencer par la chronique « Que libérer d'autre que du logiciel ?» avec l'association Antanac. Isabelle Carrère est au studio avec moi et elle nous parlera d'apprentissage et appropriation par les personnes qui s'adressent à Antanac pour libérer leur informatique. Bonjour Isabelle, à toi.
Bonjour Isabelle, merci beaucoup. Bon alors je ne sais pas si c'est trop tard, je ne peux plus dire bonne année aux auditoristes de Libre à vous, si je peux quand même. On n'est plus, normalement on le fait en janvier, mais moi je n'ai pas pu venir la dernière fois en janvier, alors du coup je le dis quand même. Tous mes voeux à tous pour beaucoup de bonheur libre. Alors voilà, pour ce mois de février, Antanac, donc on a relancé depuis septembre, mais avec encore plus d'occurrences depuis janvier, nos ateliers de partage animés par des membres actifs, actives de l'association. Les uns sont consacrés aux bases de l'utilisation d'un ordinateur, non seulement manuel, si j'ose dire, le maniement du clavier, de la souris, etc., mais aussi les rôles et raisons d'être des extensions des fichiers, les menus déroulants, les icônes et tout ça, qui est pas, c'est pas du tout évident pour des tas de gens. D'autres ateliers sont dédiés au traitement de texte, sur LibreOffice Writer, bien entendu, et parce que tout le monde a besoin, à un moment ou à un autre, d'écrire un texte, un courrier, une réponse à quelque chose, une lettre de démotivation, haha. Et puis, pendant les autres ateliers, on travaille sur la navigation sur Internet. Ça, c'est souvent le sujet que je pratique, moi, que j'anime. J'aime bien ça. On n'a pas encore repris des ateliers plus spécialisés pour le moment. Bon, on peut pas tout faire. On espère pouvoir y revenir bientôt, par exemple, sur l'utilisation de Tor ou sur tel ou tel autre logiciel. Pour le moment, on n'a pas pu encore reprogrammer ça, mais ça va venir. En tout cas, à chaque fois, ce sont 7 ou 8 personnes qui viennent. Et il y a à peu près un ou deux ateliers par semaine en ce moment. C'est plutôt pas mal. C'est assez compliqué de faire des groupes homogènes en termes de connaissances acquises, mais bon, on se débrouille. Je reste toujours assez surprise, c'est ça que je voulais partager un peu avec vous aujourd'hui, malgré tout, de ce que la curiosité, même si elle n'est pas immédiatement présente, est finalement assez simple à développer, à condition de poser les bonnes questions. Mais si on ne démarre pas avec des questions là-dessus, il y a quand même une grande soumission. Pardon, je trouve pas d'autre terme pour ça. Je veux dire que chaque personne qui vient vers nous se contente majoritairement de ce qui est proposé sur son téléphone ou sur les postes en libre accès, libre service ailleurs, dans les cybercafés ou etc. Et du coup, quand j'introduis des points comme qu'est-ce que c'est un serveur? Où sont vos données? Quand vous écrivez un courriel, où est-il? Qui développe les logiciels et applications qu'on utilise? Qu'est-ce que c'est qu'un moteur de recherche, etc. Il y a de grands silences. En fait, l'éducation populaire en matière de numérique, je trouve, n'est pas assez dynamique. En fait, on prend ce qu'il y a, on clique là où il faut cliquer, là où on a dit de cliquer, et de ce fait, on est immédiatement pris dans les filets des GAFAM ou autres, sans trop se poser de questions. Mais, en fait, pour se poser des questions, il faut un minimum d'assurance. D'abord sur le droit qu'on a de les poser, et il faut sans doute en avoir sinon l'habitude, du moins l'accès. Intellectuellement certes, mais aussi de manière très politique. Une possibilité d'interroger les réalités dans lesquelles on se trouve. Et là je me demande les liens, s'il en est, entre ces façons d'être au monde et la vulnérabilité. Est-ce que c'est en fait une résistance passive dont il est question? Quelque chose qui dirait « vous me voulez là, ok, j'y serai, mais dans une certaine limite, jusqu'à un certain point ». Auquel cas, si on est face à ça, ou dans une résistance même passive, on se doit, je me dois, moi, en animant des ateliers, de le respecter, et je ne peux que lancer des perches, des billes de connaissances, que les personnes attraperont ou pas, qu'elles pourront intégrer ou pas dans leurs approches, mais en tout cas, sans mépris de notre part, sans paternalisme, sans protectionnisme et sans jugement. C'est pas si simple à mettre en œuvre, dans l'éducation populaire, de proposer sans imposer, de montrer ou de nommer sans assommer. Je vais prendre un exemple très concret et d'actualité. Les lois qui sortent actuellement sur des outils numériques se basent désormais sur une modalité de consentement a priori. Celle sur l'ouverture et la gestion d'un espace santé, par exemple. Elle est passée en catimini en août dernier, 2021, à l'Assemblée. Le texte est assez clair, pour peu qu'on s'y attarde un peu, ce que j'ai fait. Le dossier médical partagé, DMP, il avait été lancé avec une autre modalité, puisque là, il fallait demander à ce qu'il soit ouvert et ensuite utilisé par les professionnels de santé. Mais il n'y a eu que, je crois, j'ai vu un chiffre comme 10 millions, je ne sais pas s'il est juste, mais en tout cas, de demandes d'ouverture. Et ça, ce n'était pas assez pour les tenants du tout numérique. Alors, a été inventé l'espace santé. L'espace santé est prévu pour être ouvert pour chaque personne par avance, par un opérateur commandité par l'assurance maladie, et il est alimenté par toutes les données de santé individuelles, personnelles, que connaissent les services. Assurance maladie, j'imagine complémentaire santé, peut-être les pharmacies, les médecins, les assurances, les hôpitaux, je ne sais pas, mais en tout cas la grande différence, c'est que cette fois-ci, il sera ouvert pour tout le monde, et seul le refus acté, le geste administratif posé de dire ben, « non, je ne veux pas », peut empêcher cela. Mais qui en parle ? Peu de monde. Il y a eu un ou deux articles, de ci, de là, une petite annonce, mais comme une publicité de l'assurance maladie, plutôt dans une radio, etc. Mais, et pourtant, la loi est d'actualité à compter du 1er janvier de cette année. Alors, selon les textes, l'assurance maladie doit envoyer à chacun, chacune, un code provisoire pour s'y connecter et ou pour refuser qu'il soit existant. En fait, on peut aussi anticiper et faire dès maintenant, même sans réception d'un courrier, la démarche de refuser que cet espace soit ouvert. On est plusieurs à l'avoir fait, il faut avoir une carte vitale avec une photo, je veux dire le nouveau format de la carte vitale. Bon, il faut, mais pour ça, être au courant de cette affaire. Avoir donné à l'assurance maladie, via Amélie, une boîte courriel correcte, s'y connecter, ou bien une adresse postale valide, etc. Et puis, il faut savoir qu'à la réception de ce code, on a 6 semaines pour bouger. Tout ça pour dire que les personnes que nous voyons venir à nos ateliers, toutes celles qui viennent notamment aussi aux permanences d'écrivains numériques publics, ne font pas spécialement attention ni aux courriels reçus, ni même à ce type d'informations. Même si une ou un assistant social a créé une adresse, l'identifiant, le mot de passe, parfois pour y accéder, ils ne sont pas connus des personnes. Alors vous imaginez bien que si un code arrive, les 6 semaines vont largement être dépassées. Mais en même temps, c'est pas à nous de dire, surtout, va vite refuser ton espace santé, on va pas jouer le même jeu d'imposition en force. Alors, la démarche dure très longtemps pour pouvoir partager les enjeux. Et pour moi, l'éducation populaire, elle est là aussi. Elle est à la fois d'expliquer, d'apporter des connaissances, des choses, mais aussi de pouvoir donner des façons de réfléchir et de faire des choix avec discernement. Mais quand j'explique des choses de cette nature dans des ateliers, que je pose la question pour chaque personne, il n'y a pas la moitié des gens qui voient de quoi je parle, en fait. Et tous les termes utilisés, un espace personnel, un espace santé, un identifiant, un code provisoire, etc., sont faits, si ce n'est pour faire peur et perdre la moitié des gens, du moins pour cloisonner et empêcher quand même un accès un peu simple. Chaque site, chaque administration, chaque vendeur de quelque chose vous fait ouvrir un espace. Et en fait, de l'espace, il n'y en a pas. Et en tout cas, pas un espace très joyeux, ni donc maîtrisé, avec lequel on peut faire quelque chose. Tout est fait pour que les personnes suivent le mouvement, fassent ce qu'on leur dit, au moment où on le leur dit, et même considèrent que c'est bon, c'est bien, voire c'est pour leur bien. Et que les experts qui ont inventé tout ça le font évidemment pour de bonnes raisons. C'est très 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 difficile de faire bouger ce type de mentalité. Et c'est pas une question d'intelligence, hein, c'est vraiment une question d'éducation. Les ateliers que nous animons ont aussi cela pour ambition. Ça va de pair pour nous avec la pratique et l'utilisation des logiciels libres. Ces ouvertures sur le droit à interroger, s'interroger sur ce avec quoi on est d'accord et sur les enjeux sous-tendus par ces choix. Mais poulala, il y a du boulot, hein.
Merci Isabelle pour cette belle chronique qui nous donne un aperçu très, très concret. On avait l'impression d'être avec toi aux ateliers, de ce qui peut se passer dans un atelier en Tanac. Donc mon collègue Fred sur le salon de WebChat parlait de dictature de la commodité en quelque sorte. Quand tu parlais au début, on fait les choses voilà, comme ça, on dit
c'est
on
ça,
va
c'est
là,
pratique,
on y va. Voilà, c'est pratique, on va où on dit d'aller. Ouais. Et donc merci à Tanac qui fait cet exercice très difficile de proposer sans imposer. Et donc ces exercices très, très difficiles, mais très enrichissants aussi, indispensables, ouais. Et enrichissants, qui est finalement l'exercice typique de l'éducation populaire. Donc merci vraiment pour cette belle chronique. Je te dis au mois prochain.
Oui, au mois prochain. Merci beaucoup.
Merci.